Analyse F1, l'actualité comme vous ne l'avez jamais écoutée. Salut à toutes et à tous, c'est Julien, bienvenue une nouvelle fois dans Analyse F1 et ce qu'il ne fallait pas manquer. Et là, ce qu'il ne fallait vraiment pas manquer en Autriche, tout d'abord, commençons direct dans le dur, hein, c'est le duel Hamilton-Rosberg. Le duel Hamilton-Rosberg qui a enfin eu lieu entre les deux pilotes Mercedes. Alors c'est marrant parce que sur le podcast concernant le Grand Prix d'Europe, justement, je mentionnais cette absence de duel direct, de confrontation directe entre les deux, et je disais que sûrement quand même dans la saison, il allait y en avoir. Mais j'étais loin de me douter que ça allait arriver aussitôt, mais c'est pour mon plus grand plaisir et pour votre plus grand plaisir, je l'espère, parce que quand même, ce duel qui a quand même toutes les promesses qui étaient attendues avec ce duel ont bien eu lieu, hein, même si ça s'est fini un peu de manière difficile pour un des deux pilotes. Alors, comment ça s'est passé? Tout d'abord, Rosberg s'est qualifié en 6e position. Enfin, il était 2e, mais au prix des pénalités, d'une pénalité obtenue suite, je crois, c'était un changement de boîte de vitesse, puisqu'il avait eu un problème technique. En tout cas, il avait eu un problème technique et il a dû écoper de 5 places de pénalité. Eh bien, il est parti 6e, Hamilton étant en pole. Alors oui, j'avais dit, là je vous fais un lien avec plusieurs autres podcasts que j'ai déjà fait, et notamment un ou deux sûrement, où je disais que Hamilton il cumulait tous les problèmes mécaniques en début de saison, c'est vrai que c'était assez fou, mais que sur tout au long d'une saison, surtout sur 21 courses, eh bien ça va bien s'équilibrer avec son coéquipier. Ça commence à s'équilibrer, on l'a vu en Autriche, puisque Rosberg a eu sa petite pénalité là à Silverstone. Là j'enregistre ce podcast au sortir des essais libres 3 et on voit que apparemment Rosberg aurait peut-être a eu des soucis en tout cas pendant les essais libres, en essais libres 2. Là en essais libres 3 apparemment il y avait des doutes à voir, hein, je n'en sais pas plus. Vous en saurez sûrement plus quand vous écouterez ce podcast. Mais voilà, ça commence à s'équilibrer. Et tant mieux, parce que ça nous, comme ça, la lutte est plus juste entre les deux, et on pourra pas parler de chance. D'ailleurs, on peut rarement parler de chance, on va dire, dans la période contemporaine de la F1. Bref, la course a eu lieu. Hamilton semblait plutôt tranquille, mais il y a eu un choix de stratégie décalé entre Hamilton et Rosberg, avec Hamilton qui a décidé de s'arrêter un peu plus tôt. Un moment, non, Rosberg qui a des... je ne sais plus, en tout cas il y a une stratégie décalée entre les deux, et au terme de laquelle, eh bien Rosberg s'est retrouvé en tête, et mais évidemment avec des pneus moins frais que ses concurrents, et notamment que Hamilton. Et donc Hamilton est remonté sur Rosberg. Enfin, Rosberg n'était pas en tête, hein, exactement, c'était Verstappen qui lui avait une stratégie vraiment décalée, c'est-à-dire qu'il voulait aller au bout avec son train de pneus. Malheureusement, ça n'a pas tenu comme il l'aurait voulu. Verstappen, il n'avait pas le rythme. Mais il fait quand même une très bonne performance, j'y reviendrai. Et du coup, Rosberg le passe et se retrouve en tête. Hamilton le passe. Ah oui, il y avait déjà un duel entre Hamilton et Rosberg à ce moment-là. C'est-à-dire le premier qui allait remonter sur Verstappen. Ensuite, Verstappen qui ferait un peu le bouchon. Commence à aller aider ou pas Hamilton. Voilà, il y avait déjà une lutte entre Hamilton et Rosberg. Qui s'échangeait en plus les très bons tours en course. Et voilà, donc ils se retrouvent premier et deuxième, respectivement Rosberg et Hamilton. Et ensuite, on a une lutte jusqu'au bout finalement du Grand Prix, entre les deux. Et Rosberg se retrouve avec des pneus légèrement moins frais que ceux d'Hamilton, de 10 tours, je crois, moins frais. Mais c'est les pneus les plus durs qui avaient été emmenés par Pirelli lors de ce Grand Prix, donc ça devait être... En Autriche, c'était peut-être les pneus tendres, hein, il me semble. Je crois pas que ce soit les médiums. Il me semble que c'était les pneus tendres à bande jaune. Enfin bref, c'est des pneus qui tiennent assez longtemps sur la nouvelle surface de Spielberg, puisque le circuit a été resurfacé et était bien plus rapide, et c'était très agréable pour les pilotes de bénéficier de ce grip, malgré quelque chose qu'a fait Pirelli Donc je reviendrai dessus à la fin du podcast, parce que c'est important pour moi d'en parler, j'en ai jamais parlé encore. Bref, et du coup les deux se battent, échangent les meilleurs tours, mais encore une fois, j'ai l'impression on a vu un bis repetita, mais bis 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 ter quadro repetita de 2014. Et même de tout le temps, quand il y a un duel entre Hamilton et Rosberg se retrouve devant, c'est-à-dire que le pilote allemand ne tient pas la pression. Il a d'abord fait une erreur, c'était au virage 2 une première fois qui a permis à Hamilton de regagner une seconde et demie et de revenir à peu près dans la seconde de Rosberg. Et ensuite, au dernier tour de course, mais c'est là que c'est magnifique, hein, la Formule 1, ça peut être magnifique. Dernier tour de course, les deux pilotes qui luttent pour le titre de championnat pilote. On va pas faire les fines bouches, on pouvait pas rêver mieux de voir ça. Déjà qu'il y avait une grosse tension entre les deux, vu qu'ils étaient assez proches dans les temps autour, assez proches en piste et tout. Et là, dernier tour, bah Hamilton, il donne tout simplement. Il sort bien du virage 1, il se retrouve dans l'aspiration de Rosberg. Il essaie de prendre l'expérience sur Rosberg. Rosberg qui, on l'a appris, eh bien, ah, juste avant le dernier tour, il avait perdu ses freins électriques arrière. Du coup, il était en délicatesse avec, déjà depuis quelques tours, mais là vraiment. Et du coup, le virage 2, qui s'avère être quand même le plus gros freinage du circuit, qui met bien à mal les freins et la mécanique, eh bien, Rosberg, tout simplement, n'anticipe pas le fait qu'il est. Enfin, il ne le savait peut-être pas qu'il avait les freins pétés, je pense pas. Et du coup, ben, le freinage est loupé. Mais au lieu de tourner quand il aurait pu tourner, il considère que son virage c'est le sien et ben c'est Hamilton qui ben à la fin du virage quand Hamilton a vu la ligne blanche, il s'est dit ben non je vais pas sortir de la piste, je vais tourner à un moment il faut bien que je tourne. Hein. Et il a tourné mais il a tourné sur Rosberg. Et oui parce qu'il faut bien comprendre que Rosberg à ce moment-là était vraiment à l'extérieur de la piste, hein. Mais vraiment à l'extérieur total. La trajectoire était pas du tout là. Donc certes c'est la théorie c'est son virage mais c'est pas comme ça que ça marche, c'est son virage si jamais il prend une trajectoire on va dire correcte. Là c'était tout sauf correct, c'était vraiment il l'a vraiment emmené à l'extérieur Hamilton le plus possible sans prendre le virage du tout. Donc Hamilton ben selon moi, il a bien fait, il a voulu prendre le virage. Rosberg était là et ça a coûté à Rosberg hein, la victoire, ça a coûté le podium à Rosberg. Qui avait l'aileron pété et a fini avec à la quatrième place. Rosberg qui sera pénalisé à la fin du Grand Prix pour sa manœuvre, hein, pour sa manœuvre sur Hamilton notamment. Et oui, de 10 secondes de pénalité et de 2 points sur le permis pilote. Heureusement, les 10 secondes n'ont rien coûté en termes de place à Rosberg. Je dis heureusement parce que quand quelque chose comme cela se passe, que ce soit de la faute de l'un ou de l'autre, si le pilote à qui. Qui est fautif, perd tout dans l'histoire, et là il a perdu 3 places dans l'histoire, il s'est puni lui-même, tout simplement, donc il n'y a pas à le repunir par-dessus, parce qu'après on risque d'inhiber un peu les pilotes, et c'est pas ce qu'on veut voir. C'est pas ce qu'on veut voir, même si Rosberg, c'est pas le fait d'inhiber Rosberg qui me pose problème. Rosberg, son problème, c'est surtout comment il aborde le duel face à Hamilton à chaque fois quand il est devant. C'est, il a pas la. Il a pas la. Comment dire? Il n'a pas le même talent de coureur que Hamilton en course. Il n'a pas le même talent en course qu'Hamilton. Quand il y a une grosse pression, Rosberg, à chaque fois, il perd face à Hamilton. Il perd. Même quand il perd pas, il perd gros. On l'a vu en Espagne. Faut qu'il change ça parce qu'il pourra pas être champion du monde hein, s'il continue comme ça. Vraiment pas. Hein, vraiment pas. Hein. Je rappelle que Rosberg a remporté, je crois, les 4-5 premières courses de la saison. Et que jamais dans l'histoire de la Formule 1, quelqu'un qui a gagné les 5 premières courses de la saison n'a perdu le titre. Si jamais ça devait arriver, ça montrerait bien quelque chose, ça montrerait ben, ce qu'on voit depuis 2014, tout simplement. C'est-à-dire que Rosberg ne serait pas à la hauteur de tout simplement d'un championnat du monde pilote, même si ça reste un très bon pilote, mais c'est assez triste pour lui parce que il lui manque peu de choses, hein, il lui manque vraiment peu de choses, mais ce peu de choses, c'est énorme à ce niveau, c'est énorme, hein, on le voit bien quand certaines choses se répètent entre les deux, on voit le pilote qui est dominateur dans ces cas-là, et c'est le pilote britannique. Hein. Donc voilà, Hamilton a pu passer Rosberg sans endommager sa monoplace et en prenant l'extérieur de la piste, ensuite a pu doubler Rosberg. Parce qu'en fait, si vous voulez, il n'a pas doublé directement Rosberg. Hamilton, il a tourné sur Rosberg et puis ensuite il s'est retrouvé à l'extérieur de la piste. Hamilton, évidemment, Rosberg est resté un peu devant, mais Hamilton, après, a l'aspiration à doubler avant le virage 3 au freinage, hein, tout simplement. Rosberg, il était tout simplement très lent, dû au fait que son aileron était à moitié sous la monoplace, était cassé, et voilà, et il devait juste rallier l'arrivée maintenant. Voilà pour le duel Hamilton-Rosberg qui ramène Hamilton à 11 points de Rosberg avant le Grand Prix de Grande-Bretagne. Plus que deux courses avant la mi-saison, hein, que la mi-saison j'ai envie de dire. Donc ça veut dire qu'il reste quand même une grosse moitié de saison à faire après, et avec pas mal de choses qui vont se passer. Mais voilà, il n'y avait pas que les premiers dont il faut parler, et je vais parler d'un pilote qui a terminé 10e. Et oui, parlons de Pascal Wehrlein qui a terminé à une très belle 10e place. C'est vraiment un exploit pour Manor. On n'attendait pas Manor marquer des points, tout simplement, même cette saison. Et Wehrlein l'a fait. Hein. Wehrlein l'a fait. C'est le premier point pour l'écurie Manor, anciennement Marussia, depuis le regretté Jules Bianchi. En 2014 à Monaco, hein, avec ces deux points là magnifiquement obtenus, on s'en souvient tous. Et Wehrlein, il reproduit un exploit similaire à celui qu'avait accompli Jules, c'est-à-dire emmener la Manor à la 10e place en Autriche, c'est juste exceptionnel. Après avoir emmené justement en qualif en plus sa Manor 12e, devant quand même des écuries plus puissantes que Manor, donc c'est très fort pour le pilote allemand, le jeune pilote allemand, le protégé de Mercedes, qui se montre vraiment, et qu'il faudra penser à lui dans les années à venir. Évidemment, j'en parlais en début de saison, je vous disais déjà les premières performances de Wehrlein, là, les premières sorties, on voyait qu'il avait quelque chose, je vous le disais, hein. Je vous disais, il faudra suivre sa saison avec attention. Je n'ai pas eu tort sur ce coup-là, même si voilà, ça m'a surpris comme vous tous, je pense, de le voir 10e. Et voilà, je tiens à saluer cette performance parce que déjà, ça montre que tout au long de la saison, il reste sérieux, il reste rapide. Il domine son coéquipier Rio Arianto qui sait plus trop où se mettre, hein, faut bien le dire, même s'il fait de son mieux. Mais en course, ouais, Wehrlein est plus fort, hein, c'est clair. Et pouvoir tenir également en défense face à certaines écuries, pouvoir attaquer et tout, Wehrlein se sentait bien. Certes, il connaissait le tracé qu'il avait parcouru en DTM, mais là c'est différent en F1 sur une nouvelle surface. Voilà, c'est un pilote, à mon avis, qui mériterait une petite promotion à l'avenir, mais j'espère qu'il l'obtiendra, hein, tout simplement. Et il emmène Manor devant Sauber au championnat du monde des constructeurs. Catastrophe hein, pour Sauber, hein, vraiment catastrophe. S'ils terminent dernier du championnat, pas sûr qu'ils arrivent à y survivre, hein, même à y survivre. Hein. Donc voilà, ce qu'a fait Wehrlein, c'est assez exceptionnel. Déjà pour aider Manor à survivre, et ensuite pour aider Manor à continuer de progresser. Cette écurie qui a un très bon moteur et qui mine de rien, fait du bon boulot hein, pour emmener son pilote 10e. Donc voilà, affaire à suivre Wehrlein. Faut continuer à le suivre, vraiment. Et il y avait un autre pilote, on parlait encore un pilote allemand, hein, je parle d'un troisième pilote allemand encore, dont on parlait avant la course, puisqu'il s'était qualifié en deuxième position, et dont on pensait qu'avec le rythme de la Force India actuelle, il pourrait faire peut-être un top 5, hein, ça pouvait être envisageable, hein, vu les performances cette saison de la Force India, qui sont encore une fois surprenantes. Eh bien, Nico Hülkenberg, puisque je parle de lui, n'a été nulle part en course. Très mauvais départ, déjà. Ensuite, le rythme, que ce soit au début de la course, en mi-course ou à la fin, était vraiment pas là. Mais vraiment pas, hein. C'était vraiment triste de le voir comme ça. Et il a même fini, enfin, il n'a pas fini derrière son coéquipier vu que son coéquipier a abandonné, mais en course, il se retrouvait même derrière son coéquipier qui partait 16e, donc 14 places derrière Hülkenberg, et Pérez s'est retrouvé dans la situation de pouvoir marquer des points alors que son coéquipier était genre 12-13e, pas du tout dans la situation de marquer des points. Et ça fout un coup au moral au pilote allemand quand même, parce que partir deuxième et se retrouver là, n'être nulle part en course, c'est quand même compliqué. Même en termes de gestion des pneus, ils étaient nulle part. Hülkenberg était nulle part. Il a vraiment sombré dans le classement et c'est triste. Hein, c'est triste parce que ça dénote également d'une domination depuis quand même maintenant une grosse année de Sergio Pérez sur Nico Hülkenberg. Et ça, c'est bien pour le pilote mexicain, parce que maintenant il fait partie des pilotes qu'on regarde vraiment. Hülkenberg en faisait partie, et j'ai l'impression que d'avoir vu ses espoirs un peu d'aller chez un top team un peu anéanti sur une année, mais il faut toujours y croire, sinon c'est sûr que ça arrivera jamais. Malheureusement, Hülkenberg, j'ai l'impression qu'il est un peu tombé. Sa victoire aux 24 heures du Mans également peut-être lui a fait un peu baisser son niveau en F1, je ne sais pas. Ça correspond un peu, et tout ça correspond un petit peu. Et en plus, ben, il y a Pérez, la montée en puissance de Pérez aussi, surtout, hein, il faut bien en parler. Lui aussi a augmenté son niveau de jeu. Peut-être que Hülkenberg, finalement, n'arrive pas à augmenter son niveau de jeu, n'a pas forcément baissé, mais que c'est son coéquipier qui est vraiment très très fort. C'est possible aussi, en tout cas, Hülkenberg, maintenant, il fait plus trop partie des pilotes qu'on regarde pour un top team. En tout cas, moins qu'un Pérez, moins qu'un Grosjean, moins qu'un Ricciardo. Même si Ricciardo, il fait déjà partie de Red Bull, qui est quand même une grosse écurie en F1 maintenant. Donc voilà, Hülkenberg, il doit se reprendre, mais c'est dur maintenant. Maintenant qu'il est dominé totalement par Pérez, ça va être, c'est là que c'est le plus compliqué. Est-ce qu'on peut remettre sa combativité en question à Hülkenberg? Peut-être, je ne sais pas. Je me pose vraiment la question, en tout cas, et le fait qu'on se pose la question, c'est pas bon pour ce pilote, qui, je rappelle, hein, franchement, en termes de talent, c'est un bon pilote, très bon pilote. Mais là, ce qu'il a montré en Autriche, c'était vraiment mauvais. Tout l'inverse de ce que je pouvais penser de lui. Il m'a surpris, mais dans le mauvais sens du terme. J'espère que son niveau reviendra assez vite. Hein. Il est maintenant temps de parler de Max Verstappen. Max Verstappen, qui a fait une très belle course, puisqu'il a terminé deuxième finalement. Il a profité de l'accrochage entre Hamilton et Rosberg pour se hisser en deuxième position. Et j'ai envie de parler de lui au regard de son coéquipier, de Daniel Ricciardo, puisque à la force, à mon avis, Verstappen risque de frustrer Ricciardo. Ricciardo, sa frustration, c'est sa plus grande ennemie, je l'avais déjà dit, hein, donc Verstappen appuie là où ça fait vraiment très mal, avec sa victoire en Espagne, sa deuxième place en Autriche. Parce que même si en vitesse pure, en qualif, Ricciardo reste ultra dominateur sur Verstappen, en course, ça s'inverse totalement. Ça s'inverse le plus souvent. Et à mon avis, c'est pas vraiment bon signe, hein, parce que Verstappen a une victoire, deux podiums. Il a fini 3 courses sur 5 devant Ricciardo. Les deux seules courses, c'était Bakou et Monaco, où il a fini derrière Ricciardo. Mais sinon devant, avec en plus les résultats qu'on connaît. Donc à mon avis, Ricciardo a des raisons de s'inquiéter, a des raisons de se remettre en question sur son rythme de course et sur sa manière d'aborder la course en elle-même, parce que là, on parle d'un pilote, Verstappen, qui arrive en courte saison chez Red Bull. Donc qui arrive en courte saison dans une écurie qui a bien plus de visibilité, avec bien plus de pression. En plus, il a remporté une victoire, donc les projecteurs sont braqués encore plus sur lui. Et on a vu que peut-être qu'à Monaco, il n'a pas su bien gérer ça. Enfin, il a fait ses erreurs habituelles, mais bon. Bref, il arrive chez Red Bull, et alors que Ricciardo l'est depuis bien plus d'un an. Donc Ricciardo devrait être plus dominateur sur Verstappen en course. C'est logique, selon moi. Là, c'est vrai qu'on a l'impression de revoir Ricciardo un peu face à Vergne. Là, je crois que c'était durant la première ou deuxième année face à Vergne. Enfin, pas la dernière année en tout cas, mais les autres où Ricciardo était moins bon en course que Vergne, alors, et c'était l'inverse en qualif. Alors, s'il revient à ce niveau-là, c'est mauvais. C'est mauvais, c'est bon pour Verstappen, mais c'est mauvais pour Ricciardo, parce que là, vraiment, il doit se ressaisir, parce que perdre face à un pilote qui, en plus, commet des erreurs, hein. C'est-à-dire que Verstappen, c'est pas un pilote régulier, c'est un pilote irrégulier, hein. J'arrête pas de le dire, et ça se vérifie, mais à chaque fois que Verstappen ne fait pas d'erreur, fait très peu d'erreurs, il est devant Ricciardo, et ça, c'est pas normal. Et Ricciardo doit vraiment inverser la tendance, parce que je l'ai dit, en Formule 1, on a la mémoire courte, mais surtout, on veut voir la régularité d'un pilote. Et si Ricciardo montre qu'il n'est pas si régulier qu'il a pu l'être, qu'il n'est finalement pas le très gros prétendant au championnat du monde des pilotes qu'il pourrait être, et qu'on avait vu en les 2 années passées, surtout en 2014, eh bien, on va plus trop se concentrer sur lui dans le paddock. Et on va plutôt se concentrer peut-être sur son coéquipier qui réussit plutôt bien ses débuts finalement chez Red Bull, hein, il faut le dire, hein, avec les résultats que j'ai énoncés, le fait qu'il soit devant son coéquipier plus de fois que derrière, alors que c'est que les premières courses chez Red Bull, forcément ça joue dans sa faveur au pilote néerlandais, hein. Il lui manque la régularité, il fait toujours des erreurs par-ci par-là, c'est vrai, même en Autriche, il a fait des erreurs qui auraient pu lui coûter cher quand même, hein, des erreurs rien qu'en essai libre, mais voilà, il est encore très jeune, il fait encore des erreurs et il évolue pas tellement à ce niveau pour l'instant. Mais lorsqu'il aura évolué à ce niveau, si j'étais Daniel Ricciardo, je m'inquiéterais, hein, si Ricciardo n'arrive pas à hausser son niveau, parce que ça va être compliqué. Ça va être compliqué quand même. Mais voilà, Verstappen aussi doit s'améliorer. C'est-à-dire que Ricciardo et Verstappen, à mon avis, même si Ricciardo a été prolongé jusqu'en 2018 par Red Bull, et que Verstappen, on lui indique toute la confiance de Red Bull, comme je l'ai dit, le jour où ces deux pilotes montreront à Red Bull des faiblesses, et surtout entacheront l'image de Red Bull, bah, ils seront dégagés manu militari, hein, que ce soit Verstappen ou Ricciardo. Et Verstappen, attention, les touchettes, la mauvaise gestion du risque un peu trop présente, les décalages trop tardifs en défense en ligne droite, etc., etc. Faut qu'il fasse gaffe, faut qu'il corrige un petit peu ça. C'est bien que ce soit un pilote un peu agressif, mais il y a bonne agressivité, mauvaise agressivité, et des fois, c'est un peu mauvais. Donc attention, attention Verstappen d'évoluer tout simplement. Ricciardo, il faut qu'il s'améliore aussi. Les deux ne sont pas à l'abri à l'avenir, hein, même si Ricciardo a été prolongé. Prolongé, ça veut pas dire qu'il va pouvoir lutter pour le titre, hein, Ricciardo. Ricciardo, faut qu'il garde cette niaque, qu'il garde cette intensité en piste, qu'il garde cette motivation, cette envie d'aller plus loin dans le classement. Sinon, il sera éclipsé et ce sera pas du tout marrant pour lui. Et ce sera bien beau d'avoir le contrat chez Red Bull, mais s'il peut pas gagner le championnat du monde, à quoi bon? Donc voilà, qu'il fasse gaffe. Et enfin, j'ai envie d'évoquer les pressions des pneus indiquées par Pirelli et imposées par Pirelli. Parce que là, ça va plus, hein. Depuis le début de la saison et même depuis la fin de saison dernière, on se plaint, les écuries se plaignent, les pilotes se plaignent de ça à demi-mot, parfois pas à demi-mot du tout. Et j'ai envie d'en parler, j'en ai jamais parlé, mais ça mériterait peut-être un podcast entier d'ailleurs, mais j'ai pas le temps. Je vais en parler 5 minutes, je pense. Donc oui, Pirelli. Suite au fait que Mercedes notamment, on va dire, arrivait à gruger un peu la réglementation pneumatique, en termes de pression des pneus, il y avait une pression minimale autorisée qui était plus basse que maintenant. Et en fait, comment dire, Mercedes arrivait à vraiment monter en pression les pneus en faisant chauffer, je crois, en faisant chauffer les gommes ou quoi, enfin par un biais un peu magique, mais pas du tout magique, surtout technologique, pour être dans la règle. Et ensuite, dès que Pirelli avait fait le contrôle, eh bien après, les pneus, dans leur situation normale, redescendaient de beaucoup en pression, on le suppose en tout cas, sous les limites imposées par Pirelli. Du coup, Pirelli a fait deux choses. Tout d'abord, a décidé d'augmenter la pression minimale autorisée en course pour que justement Mercedes ne puisse pas bénéficier d'une pression basse. Et aussi a fait un autre truc, c'est qu'ils ont anticipé les contrôles. Avant, Pirelli contrôlait les pneus à un certain moment, et maintenant ils les contrôlent avant même que les pneus soient posés sur les monoplaces. Mais là, j'ai envie de dire, il y a un petit problème parce que vous allez penser, je pense, comme moi, et je pense à juste titre, mais s'ils font le contrôle déjà avant, c'est-à-dire qu'ils empêchent Mercedes de faire leur truc, là, leur petite tricherie sans en être, vu que c'était dans le règlement finalement. C'est juste une exploitation du règlement, comme on en voit 10 000 en Formule 1, à la limite de la réglementation. Contrôler les pneus avant qu'ils soient mis sur les monoplaces, est-ce que ça suffirait pas? Pourquoi il y a besoin en plus d'augmenter la pression des pneus? Et surtout à des niveaux, à des à des niveaux un peu obscènes, on va dire, et un peu pas adaptés à des Formule 1 et à un pilotage de Formule 1. Ben, je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est une bonne question. Pour moi, déjà, seule la réglementation du contrôle anticipé suffit. Il n'y a pas besoin de plus. Et du coup, ben voilà, on augmente la pression minimale autorisée sur des grands prix. On l'augmente vraiment sur d'autres grands prix où Pirelli a peur. Sûrement parce qu'ils n'ont pas confiance en leurs pneumatiques. Comme j'ai dit plusieurs fois, c'est triste, hein, les pneus Pirelli, hein. Mais voilà, et du coup, quel impact ça a? Parce que vous allez me dire, oui, bon, les pressions plus hautes, ok. Quel impact ça a? Ça a comme impact que les pneus sont plus durs à faire marcher en température. C'est plus dur pour les pilotes, pour les écuries de trouver la bonne fenêtre de température sur laquelle il faut les faire marcher. Ça demande plus de délicatesse dans le pilotage en course, même parfois en qualif. Et en plus, ça peut être dangereux. En Autriche, il y avait des pressions très hautes. Et du coup, avec ces pressions très hautes plus les vibrations des vibreurs, les pneus n'ont pas aimé. On a vu des trucs assez dangereux. Heureusement qu'ils n'ont blessé personne. Mais faut faire attention, faut faire vraiment attention. Et Pirelli, ben fait pas trop attention et en plus c'est pas du tout agréable à piloter pour les pilotes parce que ben les pneus sont un peu plus gonflés en pression donc ils peuvent pas attaquer comme ils le voudraient tout simplement les pilotes et ils ont pas l'impression de piloter une F1 des fois une fois je sais plus sur quel Grand Prix c'était il y en a un qui l'a dit il a dit ah c'est plus trop comme piloter une F1 du coup mais bon on s'adapte c'est des pilotes de F1 ils sont très contents d'être faire partie de ce sport donc c'est des pilotes de haut niveau donc ils s'adaptent très bien même et ils arrivent à trouver leur comment dire leur point d'attaque et à faire la course tout simplement mais le fait est que ça empêche vraiment ces pneus Pirelli avec cette réglementation sur les pressions empêche vraiment d'exploiter le maximum des monoplaces. Et c'est bien dommage parce que finalement, à cause de ça, on voit pas le potentiel maximal de toutes les monoplaces. Et en plus, certaines monoplaces, comme AF1 Team, eh bien, à cause de ces pressions pneumatiques et du fait qu'ils n'arrivaient pas du tout à trouver la solution à ce niveau-là. Eh bien, ils ont dégringolé après 2-3 courses, ils ont dégringolé dans le classement. D'autres également ont eu du mal. Bref, c'était compliqué. Et ça l'est encore. Et on espère qu'avec les pneus de 2017, qui seront différents en termes de taille, eh bien, le problème ne soit plus là. Donc, on a hâte d'être en 2017 pour ça, hein, parce que vraiment là, c'est une cata, ces histoires de pression de pneus là. C'est très triste. Très triste pour un peu tout. Et comme je l'ai dit, Pirelli. Leurs pneus influent trop sur la course que ce qu'ils devraient. Et ça se vérifie encore une fois cette saison. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez apprécié ce podcast. Et vivons notre passion, c'est le plus important. À bientôt.